Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau webinaire organisé par Grisby Gestion Privée. Depuis quelques temps, vous l'entendez très certainement, on parle de plus en plus de partage de la valeur et plus précisément d'épargne salariale. On est très heureux aujourd'hui de vous éclairer sur cette thématique et de vous dire pourquoi l'épargne salariale devient un sujet de plus en plus incontournable. Pour nous éclairer aujourd'hui, justement, on a la chance d'accueillir Bruno Lourenço d'Eres, acteur majeur de l'épargne salariale et partenaire historique de Grisby. Et on accueille également Étienne de Saint-Germain, que vous connaissez certainement, conseiller en gestion de patrimoine au sein du cabinet. Bruno, si tu veux bien, je vais te laisser te présenter.
Je me présente rapidement. Merci Maxime, merci Grisby pour cette invitation, effectivement. Donc je travaille chez RES depuis 5 ans. Ça fait 18 ans que je suis dans le métier de l'épargne retraite, de l'épargne salariale. Donc on accompagne des entreprises dans la mise en place des dispositifs, la rédaction des accords d'intéressement, de participation. Plus que jamais, effectivement, le partage de la valeur est au centre des débats. Il y a une réglementation qui arrive, notamment, qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et c'est aussi un excellent moyen d'attirer, de fidéliser les compétences. Donc, Grisby est le conseil de proximité auquel vous pouvez faire appel pour vous accompagner dans la mise en place de ce type de solution. Nous, on intervient, voilà, en termes d'architecture, dans la conception, effectivement, des différents schémas d'optimisation, de rémunération et de surtout pouvoir s'assurer que ça répond pleinement à votre besoin d'entreprise.
Parfait, merci Bruno. Étienne?
Oui, bonjour à tous, merci, merci Maxime. Alors oui, parallèlement à Bruno, moi j'interviens plutôt en première ligne avec les dirigeants dans le fait de décortiquer un petit peu leurs problématiques, leur situation et la structuration de la stratégie globale. On intervient historiquement Grisby, nous beaucoup sur l'aide aux personnes physiques dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, mais depuis un an et demi, on est de plus en plus présent pour certains de nos clients qui sont aussi des chefs d'entreprise, des professions libérales, des dirigeants de TPE, PME ou des DRH ou des directeurs financiers. Et donc nous, on intervient, moi j'interviens depuis plus de 5 ans maintenant avec eux sur l'élaboration d'une stratégie globale sur tout un tas de problématiques. Voilà pour la présentation globale.
Merci Étienne. Merci à tous les deux et plus particulièrement à Bruno une fois de plus d'avoir accepté cette invitation. On va pouvoir éclairer tous nos participants grâce à toute l'expertise d'Eres et de Grisby réunis. D'ailleurs, je rappelle à l'ensemble des participants que vous avez la possibilité de nous poser des questions par écrit. Donc, on s'efforcera de relayer, que je relayerai. Auprès de Bruno et d'Étienne. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On pourra y répondre soit au cours de cette intervention, soit à la fin. N'hésitez pas, c'est effectivement l'interactivité qui fait que cet exercice est encore plus intéressant. Merci en tout cas à tous nos participants. Et je le redirai tout à l'heure, mais il sera également disponible en replay ce webinaire. Peut-être pour commencer, Grisby Gestion Privée accompagne au quotidien les particuliers et les chefs d'entreprise dans leur réflexion et l'optimisation de leurs finances. Et donc aujourd'hui, Étienne, est-ce que tu peux nous présenter l'ensemble des sujets qu'adresse Grisby dans le cadre de l'accompagnement auprès des dirigeants et chefs d'entreprise en introduction de ce webinaire qui durera, on a une première question qui durera entre 40 et 50 minutes. Merci Étienne.
Oui, je t'en prie, Maxime. Effectivement, comme je le disais en introduction, Grisby, là, depuis à peu près un an et demi, 2 ans, on a beaucoup développé notre activité de conseil auprès des dirigeants d'entreprise sur plusieurs points. Aujourd'hui, l'essentiel de notre intervention, elle va se baser sur le placement de la trésorerie d'entreprise. Il y a des vrais besoins à ce niveau-là. Alors, on a remarqué que de manière générale, les dirigeants étaient peu pas accompagnés, soit par leur interlocuteur bancaire, soit par les experts comptables, et ils avaient vraiment des besoins de conseils indépendants en parallèle. Donc on intervient beaucoup sur le conseil au niveau du placement de trésorerie. On intervient aussi beaucoup en termes d'optimisation de la rémunération du dirigeant, en fonction du statut qu'il a, en fonction du type de société et de son activité. On est amené aussi à travailler au cas par cas sur la transmission et les cessions d'entreprise, lorsque le besoin s'en fait sentir. Et puis, en dernier lieu, évidemment, et c'est le sujet d'aujourd'hui, on intervient beaucoup sur la mise en place d'une stratégie d'épargne salariale dans une société, voilà, qui peut être complexe ou extrêmement simple, mais encore une fois, il y a un vrai besoin d'accompagnement dessus et on intervient assez régulièrement avec nos clients sur cette thématique. Alors, simplement pour dégrossir un peu le sujet, mais Bruno ira beaucoup plus en détail que moi là-dessus, je voulais rappeler rapidement qu'est-ce qu'on entendait par épargne salariale et mise en place d'une stratégie d'épargne salariale. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent finalement un petit peu ce dispositif, puisque historiquement, quand on est salarié d'une société, on est souvent détenteur d'un plan d'épargne entreprise ou d'un plan d'épargne retraite historiquement perco. Aujourd'hui, tout est rassemblé au sein d'un seul dispositif, mais il y a plusieurs terminologies. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, effectivement, c'est que grosso modo, on va avoir un petit peu deux grands plans d'épargne qui sont mis en place par l'employeur pour les salariés. Un plan d'épargne entreprise qui est plutôt débloquable rapidement tous les 5 ans et un plan d'épargne retraite qui a une vocation à durer sur une durée plus longue. Et ces plans d'épargne peuvent être alimentés soit par l'employeur, soit par les salariés. Et quand l'employeur alimente ces plans d'épargne, il peut le faire de différentes manières. En fait, trois manières principales. La première, c'est la participation, qui est obligatoire à partir du moment où la salariée a enfin, l'entreprise, pardon, a plus de 50 salariés. La participation a versé une part des bénéfices de l'entreprise aux salariés. On a la deuxième possibilité qui est de faire un accord d'intéressement. Là, l'idée, c'est vraiment de motiver les salariés à atteindre des objectifs et à finalement leur verser une prime en fonction des résultats qui sont atteints, en fonction d'un certain nombre de critères qu'on a déterminés à l'avance. Et puis la troisième option, qui est cumulable évidemment avec les autres, c'est de faire la mise en place d'un abondement. Là, c'est qu'on incite finalement les salariés à verser sur le plan et en parallèle, l'employeur abonde un certain montant du versement du salarié sur les plans d'épargne. Voilà globalement comment ça fonctionne. Après, évidemment, toute situation est extrêmement différente. Il y a pas mal de complexité, c'est important d'être bien accompagné pour dégrossir le sujet et c'est là qu'on intervient, main dans la main avec RS depuis de nombreuses années maintenant. Et RS va vraiment nous aider sur l'architecture du plan global, et notamment quand le sujet s'avère beaucoup plus complexe.
Parfait, merci Étienne pour cette présentation de l'épargne salariale. Bruno, on le dit, on l'entend, l'épargne salariale et va devenir de plus en plus incontournable. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, s'il te plaît?
Bah écoute, avec grand plaisir. Donc, on va voir ensemble, premièrement, pourquoi s'intéresser effectivement à l'épargne salariale. On sait qu'il y a des obligations, notamment sur les grandes entreprises, mais est-ce qu'il est intéressant de le faire aussi dans des entreprises de plus petite taille? On va répondre notamment à cette question. Les évolutions réglementaires qui sont à venir avec notamment l'accord national interprofessionnel. Donc, on va revenir un peu sur le déroulé réglementaire et sur ce qui devrait arriver dès le 1er janvier 2024, hein, donc autant dire demain. Et pour vous aider un petit peu à y voir plus clair, donc on va abandonner la théorie et passer à la pratique avec une étude de cas qui, j'espère, vous plaira. Alors, pourquoi s'intéresser à l'épargne salariale? Donc, premièrement, c'est un excellent moyen de rémunérer notamment les bénéficiaires. Une prime d'intéressement, une prime de participation et un abondement en entrée comme en sortie du plan d'épargne entreprise ou du PER collectif sont exonérés d'imposition sur le revenu. Donc, on est vraiment sur un mécanisme très vertueux d'outils d'optimisation de la rémunération. Donc, ça permet bien sûr d'attirer, de fidéliser les collaborateurs, de donner plus finalement à ses salariés avec un budget équivalent versus une prime. Donc on va revenir tout à l'heure dans le détail. Et il y a aussi donc toute la partie, bien sûr, construction d'un projet d'entreprise avec les accords d'entreprise. On verra également plus en détail tout ça. Donc on est sur un outil de management. On est aussi sur une souplesse très importante des différents dispositifs. Hein. On va voir ensemble que ce soit intéressement, participation ou abondement, comme l'a décrit Étienne tout à l'heure, tout est modulable à souhait et on peut modifier les règles chaque année. Et enfin, côté entreprise, ça reste une charge de personnel, donc ça vient diminuer l'imposition des sociétés. Et en termes de montant, on peut aller très très loin en termes d'outils de rémunération. On peut aller jusqu'à un peu plus de 76 000 euros de versement, que ce soit quand on combine intéressement, participation et également l'abondement de l'entreprise. Donc vous voyez, on est sur des montants assez significatifs. Pour revenir donc sur cette efficacité, alors ce qu'on vous présente là, vous voyez, pour un budget de 1000 euros, donc vous avez une efficacité d'une prime classique. Donc pour un salarié qui a une imposition, un taux marginal d'imposition de 30%, donc pour un célibataire, c'est quelqu'un qui va gagner un peu plus de 30 000 euros hein, de rémunération, on est sur une efficacité de 39%. Donc vous avez dans ces 1000 euros, 45% de contribution patronale, 23% de contribution salariale et également l'imposition qui rentre. Donc, quand je verse une prime classique, je suis imposable. Aujourd'hui, les sociétés de moins de 50 salariés, c'est là où on a, j'ai envie de dire, un levier supplémentaire. Le forfait social a été supprimé depuis la loi Pacte, donc depuis octobre 2019. Sur l'ensemble des flux d'épargne salariale pour une société de moins de 50 salariés, donc que ce soit l'intéressement, que ce soit la participation ou que ce soit l'abondement, l'entreprise ne va pas payer de contribution patronale additionnelle. Donc, il reste uniquement en termes de frottement la CSG CRDS à 9,7%. Donc, on est sur une efficacité de 90%. Donc, budget entreprise de 1000 euros d'abondement ou d'intéressement, donc il va rester 903 en termes de capacité d'épargne pour le bénéficiaire, pour le salarié, s'il décide d'investir les sommes donc sur son plan d'épargne entreprise. On le rappelle également, moins de 50 salariés, le mandataire social est également éligible au dispositif d'épargne salariale. Il faut bien sûr avoir un salarié dans l'entreprise pour pouvoir le faire.
Petite question, Bruno, enfin même plusieurs questions concernant le frottement que tu évoquais avec les prélèvements sociaux. Est-ce que le taux de prélèvement, on a l'impression que c'est le cas, est-ce que tu peux nous confirmer, le taux de prélèvement est identique, quelles que soient les modalités de versement, intéressement, participation, abondement?
Tout à fait. Voilà, d'accord, 25, on est à 9,7. C'est okay. La CSG, CRDS, auquel j'ai envie de dire tout... tout élément de revenu est soumis à CSG-CRDS, donc l'épargne salariale en fait partie. Mais le budget entreprise reste, on va dire, tout à fait maîtrisé. Et oui, on est sur un rapport quasiment de 1 à 3 versus une prime classique.
D'accord. Et juste pour aller un tout petit peu plus loin sur la comparaison avec la prime qui est directement versée par l'employeur à travers le bulletin de paye, donc on a bien compris qu'il y avait les charges patronales, les cotisations sociales et ensuite la fiscalité supportée par le salarié, en tout cas celui qui reçoit la prime. L'hypothèse qui a été prise en termes de fiscalité dans cet exemple?
On a pris un taux marginal d'imposition à 30%. Donc, je ne sais pas si tu veux réexpliquer le taux marginal d'imposition, c'est peut-être intéressant de le faire.
Oui, en quelques mots, effectivement, il y a un barème progressif qui s'applique sur l'imposition sur le revenu. Et finalement, assez vite, en fonction de la composition du foyer et du niveau de revenu supporté, il y a un taux marginale ou une tranche marginale d'imposition qui s'applique, qui peut être de 11, 30, 40 ou 45, 41, 45. Et donc là, dans cet exemple-là, c'est le taux à 30% qui s'applique et finalement un taux marginal d'imposition qui est dans de nombreux cas assez vite atteint.
Exactement.
Donc voilà, c'était juste pour préciser la fiscalité qui avait été retenue dans le cadre de cette hypothèse.
Un point également important, c'est que là, on part du principe que la prime d'épargne salariale est investie. Sachez que quand, au niveau de l'entreprise, vous mettez en place de la participation ou de l'intéressement, le bénéficiaire, le salarié et ou le dirigeant a la possibilité aussi de récupérer tout ou partie de cette prime. Donc, on n'est pas dans l'obligation, effectivement, d'investir cette prime. Donc, on est quand même sur une souplesse, alors qu'une prime classique, finalement, je suis obligé de la récupérer, elle va passer sur mon bulletin de paye. Ma prime d'épargne salariale, participation, intéressement, j'ai le choix de placer, et auquel cas, effectivement, je suis dans mon efficacité à 90%, si je décide de récupérer tout ou partie, hein, je ne suis pas dans l'obligation de tout récupérer, la part qui est récupérée, donc il y aura toujours les 9,7 de CSG CRDS, mais la part qui est récupérée sera, elle, soumise uniquement à impôt. On n'a pas ce système, ce mécanisme de contribution patronale qui revient ni de contribution salariale, c'est l'imposition effectivement qui va jouer.
Ok. On a une question, Bruno, je ne sais pas si tu voudrais y répondre immédiatement ou en tout cas au cours de l'intervention, ça sera intéressant.
J'ai vu la question, j'y répondrai tout à l'heure.
Ok, on fait ça.
Sur la holding, c'est bien ça.
Exactement, merci Bruno, en tout cas tu l'as bien vu, c'est parfait.
C'est un point important, effectivement, mais faisons un peu de suspense.
Si très bien. Bien, avec plaisir.
Alors, les possibilités d'épargne salariale. Donc là, ce que vous voyez aujourd'hui, là, tout de suite, c'est le schéma global. Donc, que j'ai une société avec un salarié ou que j'en ai 10 000, j'ai exactement les mêmes possibilités. D'où l'intérêt, effectivement, d'être bien accompagné et c'est ce que fait notamment Grisby au quotidien. Donc, on a des flux. Donc, le versement volontaire est un flux salarié. En tant qu'entreprise, je peux mettre en place la participation, je peux mettre en place de l'intéressement et de l'abondement. La participation, elle est obligatoire à partir de 50 salariés si j'ai franchi le seuil des 50 salariés pendant 5 ans consécutifs. L'intéressement, il est toujours facultatif. L'abondement, il est toujours facultatif. Ça, c'est les flux d'alimentation que je peux mettre en œuvre. La participation, c'est directement corrélé au résultat. On va le voir tout à l'heure. L'intéressement, donc je vais fixer des critères d'atteinte d'objectifs et donc je vais coller à la réalité finalement de l'entreprise. L'abondement, lui, c'est une prime d'effort à l'épargne. Donc finalement, l'abondement, il va se générer si je place dans le plan d'épargne inter-entreprise ou si je place dans le plan d'épargne retraite collectif. Il va se générer à l'intérieur. Et à chaque fois, en termes d'abondement, j'aurai deux choix possibles, de paramétrer un taux et de paramétrer également un montant. En termes d'enveloppe, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Étienne, donc on a deux enveloppes qui sont généralement mises en place concomitamment. On a le plan d'épargne inter-entreprise, pour lequel les flux qui rentrent en 2023 seront disponibles quoi qu'il arrive en 2028. Ce qui va rentrer en 2024 sera disponible en 2029. Donc, on a ce blocage de 5 ans qui permet finalement cette exonération fiscale en sortie. Et j'ai quand même 11 cas de déblocage anticipé qu'on verra tout à l'heure. Donc, même si je n'attends pas ces 5 ans, si j'ai un cas qui vient se présenter, je vais pouvoir sortir également de mon plan d'épargne inter-entreprise. Ça, c'est pour la vision court terme, moyen terme et la vision moyen terme, long terme. Donc, j'ai un plan d'épargne retraite collectif. Comme son nom l'indique, on est plutôt sur une visée préparation d'épargne à la retraite. Et donc, le cas le plus favorable, on le verra tout à l'heure, c'est notamment l'acquisition de la résidence principale qui permet le déblocage. Donc, dans nos schémas, j'ai envie de dire TPE, PME, généralement, ce qu'on va privilégier, c'est la mise en place de l'abondement avec un plan d'épargne inter-entreprise ou un PER collectif. Et après, on va plutôt aller mettre en place un intéressement. Et c'est notamment l'étude de cas qu'on va vous présenter tout à l'heure. Mais pour le moins de 50 salariés, tout est facultatif. Alors, la prime de participation avait été rendue obligatoire par le feu général de Gaulle en son temps, donc pour les sociétés de plus de 50 salariés. Et donc, On a revu également ce seuil de 50 salariés pendant 5 ans consécutifs avec la loi Pacte. Et donc, c'est directement corrélé au résultat de la structure. Et donc, on est vraiment sur des formules mathématiques. Donc, j'ai ma formule légale qui détermine un montant. Donc, on est sur la moitié du bénéfice, moins 5% des capitaux propres, fois le ratio salaire sur valeur ajoutée. Mais je peux également aller distribuer notamment jusqu'à la moitié de mon résultat net comptable, si je le souhaite. Et donc, la participation en dessous de 50 salariés, c'est ce qu'on dit une participation volontaire. Donc, on peut quand même le faire. Donc, j'ai mon plafond collectif qui est, imaginons, la moitié de mon résultat net comptable. Et en termes de plafond individuel, je ne peux pas avoir plus que 3 quarts, 75% du plafond annuel de sécurité sociale. Donc, c'est l'équivalent à ce jour de 33 000 euros. Donc, voilà mon maximum individuel au titre de la participation, c'est 33 000 euros. L'intéressement, donc, c'est une prime à la performance. Donc, on va définir des seuils. On peut définir des seuils quantitatifs, des seuils qualitatifs. On a une liberté totale en matière de rédaction. Ce que nous demande le législateur, c'est d'être sur des critères qui se disent aléatoires, donc pas trop facilement atteignables. Voilà ce qu'on, la contrainte qu'on nous fixe, c'est plafonné à 20% de la masse salariale, dirigeants compris, hein, s'ils sont bénéficiaires de l'accord d'intéressement. On s'assurera de notre côté qu'ils soient bien intégrés. Et en termes de plafond individuel, donc on est sur le même plafond individuel, donc l'équivalent de 33 000 euros, donc trois quarts du PASS également. C'est 20% de la masse salariale si on n'arrive pas forcément à se fixer un montant. Donc, on est un mois de salaire, c'est 8,33 de la masse salariale. Donc, 20%, on est un peu plus de deux mois de salaire. Donc, on va pouvoir créer un 13e mois, voire un 14e mois avec l'intéressement si on le souhaite. Mais donc, purement facultatif, on va vous présenter un montage tout à l'heure qui ne met pas en péril, j'ai envie de dire, les budgets de l'entreprise. Et donc, pour revenir sur ces montants, effectivement, donc, quand je mets en place de l'abondement sur le plan d'épargne entreprise, j'ai deux paramètres possibles. Je peux aller jusqu'à 300% du versement. Donc, le salarié met 100, la société met 300. Et en termes de montant, je suis plafonné à 3519 euros. Donc, à chaque fois, je paramétrerai un taux entre 0 et 300% et un montant entre 0 et 3519 euros. On verra tout à l'heure aussi qu'on a la possibilité notamment de faire de l'abondement à l'ancienneté. Donc, je peux aussi favoriser les salariés qui sont présents depuis plus longtemps dans l'entreprise. Donc, c'est aussi une manière de fidéliser les salariés. Sur l'abondement PER collectif, je vais deux fois plus loin. Je suis plafonné à 16% du plafond annuel de sécurité sociale. Donc, 7038 euros en 2023. Et mon versement, même principe, je paramètre un taux entre 0 et 300% et je dois être à 7038 euros maximum. Et après, je reviens sur mes plafonds d'intéressement et de participation. Donc, on est à un peu plus de, aujourd'hui, voire un peu plus de 80 000 euros hein, sur ces montants d'intéressement et de participation. Abondement, si on va dans des schémas extrêmes, généralement, on va plutôt privilégier un abondement hein, qui est déjà un peu plus de 10 000 euros de budget, mais tout est modifiable. Chaque année, je peux modifier ma règle d'abondement. Un intéressement, je peux aussi modifier mes critères chaque année, tant que je suis dans la période de conclusion et la participation pour une société de moins de 50 salariés. Finalement, grâce à notre plan d'épargne inter-entreprise qui détient un accord de participation, je peux décider de verser de la participation chaque année ou pas, en fonction de mes envies.
Petite question, Bruno, sur la différence entre intéressement et participation. Tu l'as évoqué, on y reviendra sur les critères. Donc l'intéressement, on peut vraiment aller assez loin dans le sur-mesure. Est-ce que la participation, à l'inverse, tout est figé et s'appuie sur l'accord de participation qui a été signé? Et dans ce cas-là, est-ce que les montants qui sont versés dans le cadre des participations est identique à l'ensemble des collaborateurs concernés ou est-ce qu'il peut y avoir des différences?
Il y a deux questions dans ta question, mon cher Maxime, et je vais tâcher de répondre à ces deux questions. Alors, que ce soit de l'intéressement ou de la participation, j'ai à chaque fois, donc j'ai une enveloppe hein, globale, et je vais pouvoir définir quel est mon critère de répartition. D'accord? Et donc, j'ai trois choix possibles liés à la rémunération. Donc, celui qui gagne plus a plus, sachant que mon mandataire social sera plafonné au salarié le mieux payé. J'ai le temps de présence, donc celui qui est présent à temps plein toute l'année a la même chose que son petit voisin présent à temps plein toute l'année, même s'il a deux ou trois fois une rémunération supérieure. Et donc, à l'inverse, celui qui a mi-temps aura la moitié de sa prime, hein, grosso modo. Et un troisième cas de figure qu'on n'utilise quasiment jamais, c'est une répartition uniforme. Et pourquoi je vais vous dire qu'on l'utilise quasiment jamais, c'est que le salarié qui a passé une journée dans l'entreprise ou toute l'année a exactement le même montant. Donc, ce qu'on va plutôt réaliser, c'est généralement une combinatoire entre une partie liée à la rémunération et une partie liée au temps de présence, en fonction aussi de qui je veux favoriser, on peut le dire, dans l'entreprise, ou est-ce que j'ai envie de travailler un peu sur l'absentéisme? Est-ce que j'ai besoin de récompenser mes salariés qui ont un profil, j'ai envie de dire, très recherché, ainsi de suite. Donc, on va pouvoir répondre à cette partie-là. Ta deuxième question est, est-ce qu'on est libre ou pas sur les montants de participation? Donc, la participation, j'ai ma formule légale qui est le plancher minimum. Et derrière, après, j'ai quatre plafonds prévus par la réglementation. Je vais en donner que deux, si vous me permettez. Moitié du résultat net comptable. Et 100% du résultat net comptable, moins 5% de capital propre. Donc, tant que je verse un minimum, derrière, je peux faire un supplément, comme on appelle ça. Et je peux très bien, si mon maximum, si la moitié de mon résultat net comptable est à 100 000 euros et que j'ai versé 10 000 euros de participation, je peux potentiellement verser jusqu'à 90 000 euros. Mais je peux très bien décider d'un montant tout à fait arbitraire. Je verse 10 000 euros de plus, 20 000 euros de plus, 30 000 euros de plus. Donc, à chaque fois, on va utiliser ces mécanismes-là et ça, on va utiliser chaque année pour justement vous offrir une souplesse dans les montages.
Très bien,
Et je réponds
merci
à la question.
Bruno. Oui, tout à fait. Et après, le versement de la participation, là, tu parlais du calcul de la participation globale et après la distribution de cette participation à l'ensemble des collaborateurs concernés.
Ce que j'évoquais, effectivement, après, on va pouvoir répartir en fonction de la
Des
rémunération
critères. Oui, c'est ça, des
présente
critères. Ok.
ou des deux.
Très bien.
Et en matière de, vous voyez, en matière de déblocage, on a un dispositif court terme, moyen terme, qui est juste exceptionnel. On a 11 cas de déblocage anticipé. Je verse aujourd'hui ma prime d'intéressement. Je me marie après-demain. Je vais pouvoir demander, je vais bénéficier de mon avantage fiscal en entrée, exonération. Et j'ai envie de dire, dans une semaine, je te demande mon déblocage. Donc, on est voilà, sur des critères très nombreux et pour des jeunes entre 20 et 30 ans. On est sur un déblocage qui va s'opérer tous les 2 ans, généralement. Donc, on va aussi pouvoir attirer ces jeunes talents qu'on a envie d'attirer au sein de l'entreprise. Le PER collectif, on a l'acquisition de la résidence principale qui permet de débloquer les versements personnels, déductibles ou non, et également tout ce qui est participation, intéressement et abondement. Là, on est sur le compartiment numéro 2. Donc, le fait de bénéficier d'un de ces quatre déblocages ne remet pas en cause l'avantage fiscal que j'ai eu en entrée, hein. C'est juste qu'à la date de l'événement, on va regarder l'épargne qu'il y avait sur le compte et on va pouvoir demander effectivement ce déblocage.
Une question sur le cas de déblocage anticipé, si tu veux y revenir, hop, concernant le plan d'épargne retraite. Donc on a bien compris que sur l'ensemble des cas, ils sont nombreux pour le plan d'épargne entreprise ou inter-entreprise, il n'y a pas de sujet d'impact en termes de fiscalité. Est-ce que c'est la même chose pour le plan d'épargne retraite, notamment quand il y a un versement déductible qui a été opéré sur le PER? Est-ce que tu peux juste nous apporter cette précision?
Alors, l'acquisition de la résidence principale, c'est un cas qu'on va pouvoir demander effectivement au moment de la signature de la promesse de vente ou au moment de l'acte définitif. Pour l'achat de la résidence principale, il faut qu'il y ait un apport dans le plan de financement. Pourquoi? Parce que ce déblocage est lié à l'apport qui est dans le plan de financement. Donc, une fois qu'on a ça, on peut effectivement demander le déblocage, que ce soit des versements déductibles ou le déblocage de la prime d'intéressement et de participation et l'abondement. Le versement déductible, lui, sera fiscalisé parce qu'il a bénéficié d'un avantage en entrée, alors que l'abondement participation intéressement, lui, sera en exonération de fiscalité en sortie. C'est pour ça que c'est très vertueux, ces mécanismes d'épargne salariale. Les autres cas de déblocage anticipés, donc je vais répondre à ta question, eux sont en exonération de fiscalité.
Ok, très clair, merci Bruno.
Je vous en prie. Alors, évolution réglementaire à venir. Donc là, on est pleinement dans le sujet de l'accord national interprofessionnel. On s'est rendu compte, il y a fort longtemps, qu'on est un peu sur le principe de la loi de Pareto. Ça veut dire que les petites structures ont un taux d'équipement proche de 20%. C'est pour ça qu'il y a eu cette suppression du forfait social qui a été acquise, notamment depuis octobre 2019. Et les partenaires sociaux veulent aller plus loin et ils veulent notamment rendre obligatoire pour les sociétés entre 11 et 49 salariés, donc vous voyez, on abaisse le seuil des 49 à 11 salariés, un dispositif de partage de la valeur. Donc, le 10 février 2023, il y a la signature de l'accord national interprofessionnel donc par toutes les organisations syndicales et patronales, sauf la CGT. Et à l'été 2023, donc le débat parlementaire a démarré. Ce qu'il faut retenir notamment, c'est que la promesse du gouvernement, c'est de retranscrire fidèlement les dispositions de l'accord national interprofessionnel en réglementation. Quelles sont les entreprises concernées? Donc, entreprises de plus de 11 salariés qui ne sont pas équipées d'un dispositif de partage de la valeur. Et qu'est-ce qu'on entend par dispositif de partage de la valeur? C'est participation, intéressement, abondement ou prime partage de la valeur. Donc, j'ai envie de dire ce qui a pris le relais de la prime Macron. Si le bénéfice fiscal, net fiscal, est supérieur de 1% du CA pendant 3 ans consécutifs, donc il y a cette obligation qui va naître, et elle va naître à compter du 1er janvier 2024. Donc, au démarrage de la loi PACTE, on était sur une échéance 2025. Pendant, au cours de l'été, donc il y a un amendement qui a rendu cette disposition applicable dès le 1er janvier 2024. Actuellement, ça suit son, j'ai envie de dire, les navettes parlementaires, c'est au Sénat et ça doit avancer notamment la semaine prochaine. Mais on est voilà, sur cette deadline du 1er janvier 2024. Donc ça, ça va être obligatoire. L'avantage de la participation, intéressement et l'abondement, c'est notamment que le dirigeant est éligible à l'ensemble des dispositifs. C'est plutôt une très bonne chose. Et autre nouveauté, c'est que la prime partage de la valeur va pouvoir être intégrée dans le plan d'épargne inter-entreprise et dans le PVR collectif et générer de l'abondement également. Donc, c'est aussi une nouvelle disposition qui va arriver. Il y a une autre obligation de négocier en cas de bénéfice exceptionnel. Il y a aussi cette obligation qui arrive, entreprise de plus de 50 salariés avec au moins un délégué syndical. Donc, supplément d'intéressement ou de participation qui va être à négocier ou un dispositif d'intéressement ou un abondement.
Pour résumer en deux mots, Bruno, effectivement, toutes les entreprises aujourd'hui composées de plus de 11 salariés qui ont réalisé un bénéfice au cours des exercices 2020, 2021, 2022 supérieur à 1% du CA, parce que 2023, on ne le saura pas, auront l'obligation, sous réserve du vote à l'Assemblée nationale, auront l'obligation de mettre en place ce dispositif dès le 1er janvier prochain.
On va regarder 23, 22, 21, mais effectivement, ça va être ça.
Ouais, mais 23, oui, mais 23, on aura l'information que tardivement, en fait. Ah oui, donc c'est sur 21, 22, 23.
Ouais, ouais. Okay. Et après, mais chaque année, donc on va regarder à chaque fois 3 ans dans le rétroviseur.
Oui, ok.
Donc, d'où l'intérêt, effectivement, de s'approprier ces dispositifs, d'où l'intérêt d'évaluer avantages, inconvénients de chacune de ces solutions. Et d'où l'intérêt, j'ai envie de dire, de faire appel à Grisby. Voilà un petit peu pour le côté théorie. J'espère que nous n'avons pas été trop longs. Et maintenant, on va rentrer dans une étude de cas. Étude de cas très simple. Donc, une SARL qui emploie 12 salariés, qui fournit les composants pour les fusées. Vous allez me dire que le cas est très réel. Nous avons 6 cadres et 6 non-cadres. Et il y a eu un résultat 2022 de 100 000 euros. Clôture de l'exercice comptable au 31 décembre. On a besoin de connaître la clôture de l'exercice comptable pour après dresser un petit peu la temporalité des différents dispositifs qui sont mis en œuvre. Le dirigeant souhaite optimiser la rémunération et motiver ses salariés. Et enfin, quel montant maximum de prime d'épargne salariale pourra être versé? Ce qu'on voulait également partager avec vous, c'est une réflexion, c'est que tout ce qui est intéressement et abondement n'est pas forcément un budget supplémentaire qui est alloué. Donc, on va vous expliquer notamment l'ingénierie assez simple, hein, vous allez le voir et comprendre qu'on a déployé. Donc, l'entreprise a fait, imaginons, sur 3 ans, une moyenne de 100 000 euros de résultats. Donc, on va mettre comme critère, premier critère, que le résultat soit supérieur à 100 000 euros. Enfin, en termes de règles de distribution, on prévoit qu'on va distribuer 20% de ce qui excède ces fameux 100 000 euros. Vous voyez, on vient utiliser finalement, on vient motiver ses salariés, les fidéliser en passant un contrat moral avec eux, en disant voilà, les résultats supplémentaires qui seront réalisés, on va prendre une partie de ces résultats pour vous les redistribuer en enveloppe de distribution. Si les résultats sont inférieurs à 100 000 euros, il n'y a pas d'intéressement. On va privilégier aussi de coupler l'abondement au flux d'intéressement. Donc, ça veut dire que l'intéressement qui serait versé dans le plan d'épargne entreprise, il y aurait une prime d'effort à l'épargne, donc il y aurait un abondement qui serait généré par l'entreprise. L'avantage de coupler ces deux solutions, c'est que l'abondement, il est versé uniquement aux salariés présents au moment du versement de l'intéressement. Donc, ça veut dire qu'un salarié qui était présent du 1er janvier au 31 décembre a une prime d'intéressement complète. En revanche, là, pour une société qui clôture au 31 décembre, le versement intervient au 31 mai au plus tard, donc généralement fin mai. Donc, si mon salarié qui est parti au 31 décembre, investit sa prime sur le plan d'épargne. En revanche, il n'a pas cet abondement qui vient se déclencher. Donc, on vient aussi finalement récompenser ces salariés qui sont présents plus longtemps. Donc, vous voyez, on n'a pas toujours intérêt à mettre 100% du budget sur un intéressement, mais à plutôt flécher un 60% budget intéressement et un 40% budget abondement. Donc, ça, c'est après, c'est une stratégie, bien sûr, qu'on vient définir avec vous. Et donc, notre cas concret, les résultats atteints ont été de 150 000 euros. Donc, on prend, on fait la différence entre 150 000 et 100 000 euros, qui était le seuil minimum. Et on a évoqué qu'on allait prendre 20% de cet excédent. Et donc là, pour notre cas présent, on va distribuer une prime d'enveloppe globale de 10 000 euros. Et enfin, aussi, si on souhaite fidéliser un peu plus les salariés, on mettra une règle d'abondement à 300%. Donc, ça veut dire que on va mettre 3 fois le montant investi par le salarié, mais on va différencier le salarié qui a été présent depuis moins d'un an au moment du versement, moins de 3 ans, moins de 5 ans et plus de 5 ans. Et là, vous voyez, on a un outil qui vient récompenser premièrement l'atteinte d'objectifs avec l'intéressement. Et on va aussi récompenser, j'ai envie de dire, la fidélité du salarié. Et le montant, il est plafonné à 250 euros pour celui qui a moins d'un an, 500 euros moins de 3 ans, moins de 5 ans, 750, et 1500 pour celui qui a 5 ans et plus. Donc, pas d'intéressement, pas d'abondement. Voilà le raisonnement qu'il faut entendre et comprendre. Donc, mes résultats n'ont pas été bons, je ne déclenche pas d'intéressement. Et vu que j'ai mis uniquement un flux d'abondement sur ce qui arrive dans l'intéressement, donc pas d'intéressement, pas d'abondement.
Est-ce qu'il y a un intérêt, Bruno, à mettre en place un plan d'intéressement sans abondement, enfin, basé 100% sur l'intéressement, là, d'après ce que tu viens de présenter?
On peut le faire, mais j'ai envie de dire, enfin, le salarié qui part en cours de la période aura potentiellement le même montant que celui qui est encore présent au moment du versement. C'est juste ça qu'on évoque, entre guillemets. Mais l'ensemble de ces dispositifs sont paramétrables. Ma règle d'abondement, je peux la changer chaque année. C'est là où aussi on peut très bien dire à ses salariés, voilà, cette année, on va démarrer sur cette formule-là, la trésorerie est là, les résultats sont bien présents, et demain, on évoluera potentiellement à la hausse ou potentiellement à la baisse. C'est là-dessus qu'il faut avoir, j'ai envie de dire, un discours de vérité, et c'est l'avantage aussi de cet intéressement qu'on vient combiner avec l'abondement, c'est que c'est un contrat moral avec les salariés. On a fait une bonne année, on vient distribuer une partie, l'année est moins bonne, malheureusement, le seuil de déclenchement n'est pas réalisé, quoi. Et l'intéressement, maintenant, on peut le faire sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et on peut le renouveler autant de fois qu'on veut. Donc, en termes de temporalité, donc on met en place les enveloppes, on met en place l'intéressement avant le 30 juin, car j'ai une clôture d'exercice au 31 décembre. Et après, donc en 2025 et en 2026, donc seront, si les résultats ont été atteints, donc il y aura les versements qui seront passés.
Très clair. Merci Bruno pour ce cas.
Rapidement, des restes, mais oui. Je pense que je vais activer. On est 110 en France, donc spécialisé en partage de la valeur. J'ai envie de dire une équipe de passionnés, épargne salariale, accord d'entreprise. On fait aussi de l'actionnariat salarié et de la retraite individuelle et collective avec Grisby notamment. On a un peu plus de 6,3 milliards d'actifs sous gestion et 28 000 entreprises clientes. Et voici quelques références que certainement certains reconnaîtront. Voilà, mon cher Maxime, est-ce que nous avons des questions ?
Oui, déjà, merci Bruno pour tout cet éclairage fort intéressant. Effectivement, on a eu plusieurs questions, notamment en lien avec les différences qu'il pourrait y avoir sur le traitement, éventuellement, entre une société holding et une société d'exploitation. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, cher Bruno ?
Bien sûr. Nous sommes là pour ça. Alors, dans la structure holding, effectivement, il y a des schémas qu'on va favoriser et préconiser. C'est plutôt de l'abondement et de la participation. Si je veux faire de l'intéressement dans une structure holding animatrice, notamment, il faut que j'ai équipé 2/3 de mes effectifs des sociétés filles d'un accord d'intéressement. Donc, il y a un prérequis qui est 2/3 des effectifs qui soient équipés en dessous. Donc, ça, après, c'est des choses... qu'Étienne manipule au quotidien, donc il pourra pouvoir vous aider dans ce montage-là.
Oui, donc effectivement, faut vraiment faire le point avec son conseiller pour déterminer le schéma le plus adapté en fonction des besoins de chacun. En tout cas, on peut faire des choses bien évidemment.
Je ne suis pas obligé, imaginons, je fais un accord d'intéressement qui distribue un certain montant dans la société d'exploitation. Je peux faire un accord de participation sans aucune contrainte dans ma holding et un accord d'intéressement qui soit totalement différent aussi.
Oui, très bien. Très bien, très bien. Étienne, peut-être un éclairage sur justement comment on accompagne nos clients qui se posent des questions, qui souhaitent mettre en place des dispositifs d'épargne salariale. Est-ce que tu peux nous dire effectivement comment on accompagne nos clients sur cette thématique, sachant que chacun des conseillers de Grisby est là pour vous accompagner si vous le souhaitez, si vous avez ce type de questions.
Oui, bien sûr. En fait, effectivement, comme vous l'avez vu dans la présentation de Bruno, l'épargne salariale au sens large peut permettre de répondre à des objectifs extrêmement variés et donc à beaucoup de situations différentes. Mais il n'y a pas une seule bonne solution, il faut vraiment décortiquer tout ça ensemble. Donc dans la plupart des cas, effectivement, nous on vous invite à vous rapprocher de votre conseiller habituel ou alors de nous contacter directement chez Grisby, on se fera un plaisir de vous accompagner sur la stratégie. L'idée c'est qu'on essaye de voir avec vous un petit peu quelle est votre situation aujourd'hui, quels sont les objectifs que vous voulez prioriser, est-ce que c'est vraiment une optimisation de votre rémunération en tant que dirigeant, est-ce que c'est fidéliser vos salariés, est-ce que c'est leur permettre d'accéder à un dispositif d'épargne de qualité. Enfin, voilà, il y a encore une fois tout un tas de situations qui est extrêmement variée. qu'on soit dans une holding ou une société d'exploitation, bien entendu, il n'y a pas de mauvaise situation et vraiment l'épargne salariale est accessible à tous. Donc nous, on est vraiment là pour décortiquer et construire la stratégie avec vous. En cas de besoin, évidemment, sur des cas plus complexes, on s'appuie beaucoup avec RS sur la construction de la stratégie. On a eu l'occasion de travailler plusieurs fois avec Bruno sur ça. Simplement, voilà, pour rappeler, dans un premier temps, la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale, il ne faut pas se dire que ça va vous prendre énormément de temps, que ça va être très complexe. Tout est digital, tout est très facile à mettre en place. Ce qu'on fait dans la plupart des cas, c'est qu'on commence par la base, c'est-à-dire une règle d'abondement très simple. Il y a beaucoup de dirigeants qui utilisent ça pour compléter leurs revenus et se constituer une retraite. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le véhicule d'épargne salariale sur lequel on peut abonder, sur lequel on peut verser de la participation de l'intéressement, vous offre la possibilité d'investir dans de très nombreux fonds d'investissement de qualité. Et là aussi, on est là pour vous aider. Et je pense que l'offre d'RS se démarque beaucoup de ce qui se fait au niveau de l'épargne salariale globale, dans lesquels on est plutôt cantonné à deux ou trois profils. Là, on est vraiment dans un véhicule d'épargne de qualité. L'avantage, ce n'est pas juste d'avoir un abondement de l'employeur, c'est aussi de se dire que cet argent, il est amené à travailler pendant 5 ans ou plus sur des fonds qui sont très bons. Et ça, c'est parce que RS permet d'accéder effectivement à ce genre de fonds de qualité. Voilà, donc pour résumer, n'hésitez pas, soit dans un premier temps, si vous voulez des renseignements globaux, on a un site internet qui est très bien fait avec beaucoup de contenu sur l'épargne salariale, mais sur tout ce qui va concerner l'accompagnement qu'on peut vous proposer en tant que dirigeant d'entreprise. Mais évidemment, l'idéal, n'hésitez pas à contacter nous, on essaye de se faire un point rapide ensemble, on regarde dans quelle mesure ça peut être intéressant pour vous et au besoin, on avancera évidemment dans les détails après pour vous accompagner.
Parfait, merci beaucoup Étienne. Bruno, merci également pour cette intervention. Vous l'avez compris, on travaille depuis le début de notre aventure Grisby, main dans la main avec RS, sur la thématique de l'épargne et de l'épargne salariale en particulier. On est là pour vous accompagner. Vous allez pouvoir revoir ce webinaire à travers un replay qu'on enverra très prochainement. N'hésitez pas à le transmettre à des proches qui pourraient être également intéressés par cette thématique. On est avec l'ensemble de l'équipe de conseillers à votre disposition pour vous apporter un accompagnement, des réponses à vos questions sur cette thématique ou d'autres autour de l'épargne privée ou des réflexions du dirigeant d'entreprise. Merci en tout cas de votre participation, de vos questions, et on vous dit à très bientôt pour un nouveau webinaire. À bientôt.
Merci, à bientôt.